chef de file des soins infirmiers, assurant la sauvegarde des hautes normes de qualité, cherchant à promouvoir l'enseignement, la recherche, l'encadrement, le soutien et le développement des compétences et de l'excellence clinique. Nous sommes la direction des soins infirmiers du CIUS de l'Estrichu. Bienvenue à Savoir et Stéthoscope.
Bonjour à tous, bienvenue à cet épisode. Je suis Sophie Martin, conseillère en soins à la direction des soins infirmiers et je suis accompagnée de...
Julie Blanchette, aussi conseillère à la direction des soins infirmiers.
L'épisode 8 de la dernière saison qui s'intitulait « Voyage au cœur de la diversité de la pratique infirmière » a eu un franc succès. Nous vous invitons à un deuxième voyage aujourd'hui pour découvrir les milieux parfois moins connus de notre profession.
En effet, ça va être un voyage assez spécial sous forme d'escapade dans l'univers de la première ligne. Et on a avec nous en studio notre invitée Marie-Pierre Blais, qui est conseillère en soins infirmiers en première ligne et qui va être notre guide touristique. Elle va nous partager son expérience professionnelle.
C'est parti pour un nouvel épisode de Savoir et Stéthoscope.
Nouveauté, développement, accomplissement. Quoi de neuf à la DSI?
Donc, on vous annonce le déploiement de la règle de soins infirmiers sur l'immunisation du CIUS de l'Estrichu. Donc, c'est une règle qui s'applique à tous les professionnels de l'établissement qui sont impliqués en immunisation et qui vient encadrer la pratique, définir les compétences requises, les formations attendues et qui soutient un développement clinique qui est cohérent et sécuritaire en matière d'immunisation. Donc, c'est un outil qui renforce la qualité des soins, qui favorise une uniformité des pratiques à l'échelle de notre territoire. Et en complément à cette règle de soins-là, il y a un parcours de formation structuré qui a été déployé sur l'ENA et qui est organisé par thématique clinique. Donc, en plus d'inclure une formation de base en immunisation, elle comprend aussi l'immunisation chez les enfants, l'immunisation saisonnière, la gestion des vaccins et plusieurs autres thématiques. Donc, c'est un parcours qui permet aux professionnels de se former de façon progressive selon leurs besoins, tout en s'appuyant sur les recommandations à jour du protocole immunisation du Québec, donc le fameux PIC. Et un autre élément important qui s'inscrit dans cet encadrement-là, c'est l'avis clinique de la direction des soins infirmiers concernant la nécessité d'avoir un témoin lors d'un consentement téléphonique. Le PIC émettait une recommandation d'avoir un témoin pour ce type de consentement, mais il y a eu plusieurs questionnements cliniques et juridiques qui ont émergé du terrain et à la suite des réflexions là, menées avec différentes instances, dont le contentieux de notre établissement, l'OIQ et les directions partenaires, il y a un avis qui a été émis par la direction des soins infirmiers pour confirmer que la présence d'un témoin n'est pas requise et que les professionnels sont pleinement légitimés à obtenir un consentement téléphonique de façon autonome, dans le respect, bien sûr, des balises cliniques. Et cet avis est d'ailleurs actuellement au cœur d'une réflexion au niveau provincial, ce qui montre bien à quel point les enjeux du terrain, les pratiques sécuritaires et l'évolution des cadres réglementaires doivent avancer ensemble.
Dans cet épisode, nous avions envie de vous amener en voyage et de vous faire découvrir l'étendue de la pratique infirmière en première ligne.
On connaît toute l'importance de la première ligne dans le réseau de la santé, puis on ne réalise pas toujours que c'est tous les secteurs dans lesquels il va y avoir des infirmières en première ligne. Fait qu'on va avoir l'opportunité aujourd'hui de rencontrer 6 infirmières qui vont nous dire en gros c'est quoi leur réalité et c'est quoi une pratique infirmière dans un secteur en première ligne.
Qui sait, ça va peut-être nous donner l'envie d'en apprendre encore plus et peut-être même d'aller travailler en première ligne. Notre invitée Marie-Pierre Blais est conseillère en soins dans les points de service locaux. Elle a le privilège d'accompagner les équipes qui œuvrent en immunisation, dépistage, prélèvement. Elle soutient les équipes des PSL au quotidien par son rôle d'accompagnement clinique, de formation du personnel, puis d'assurer la mise à jour des pratiques selon les normes en vigueur. Tout ça pour favoriser une offre de services sécuritaire, efficiente, centrée sur la clientèle. C'est un rôle de soutien, mais aussi de collaboration avec les équipes, les chefs et les coordinations. Mais bonjour Marie-Pierre, merci d'être notre agente touristique pour notre escapade en première ligne aujourd'hui. Est-ce que tu voudrais là, nous raconter un petit peu là, comment ta carrière comme infirmière, ça a commencé?
Bonjour à toutes. Oui, certainement. Je suis ravie de partager aujourd'hui mon parcours professionnel avec vous. La première ligne, c'est un domaine qui me passionne depuis le tout début. Ça s'est manifesté là, très tôt dans mon parcours académique. Pendant mes études collégiales en soins infirmiers, j'ai toujours choisi mes stages, ceux-là qu'on pouvait choisir, là, dans des milieux de première ligne. Je me suis orientée là, vers les soins périnataux et les soins à domicile en particulier. C'est vraiment là que je me sentais à ma place, là, proche des gens, dans leur réalité quotidienne. Cet intérêt-là m'a suivi là, même jusqu'à l'université où j'ai choisi le cheminement de la première ligne là, pour la dernière année du baccalauréat. J'ai eu la chance là, d'effectuer 3 stages différents dans ma dernière année, dont c'est tous des milieux que je vais travailler par la suite comme infirmière. Ça a été vraiment une belle boucle là, pour moi de pouvoir apprendre dans ces milieux-là comme stagiaire, puis d'y revenir plus tard là, pour exercer comme infirmière. Puis, dans le fond, ma carrière, moi, elle a vraiment démarré tout de suite à la fin de mon baccalauréat. Ça a été un moment un peu inattendu. Là, j'étais encore en stage, en soins infirmiers courants, quand que l'infirmière qui était ma responsable de stage devait partir pour une chirurgie en congé de maladie. Donc, comme il n'y avait personne à ce moment-là qui pouvait remplacer, c'est moi, on m'a offert le remplacement de 3 mois. Dans le fond, vu que j'étais déjà en stage-là puis que je savais bien comment fonctionnait le département. Puis, quand elle est revenue, c'est sa collègue, finalement, qui est partie pour un autre poste. Donc, mon remplacement s'est vraiment poursuivi là, pour environ 1 an. Cette expérience-là m'a vraiment permis là, de m'ancrer rapidement dans la réalité du terrain là, des soins infirmiers courants. Puis, un peu plus tard, avec un bon timing, là, il y a une belle opportunité qui s'est présentée. Dans le fond, il y a un poste d'ASI aux soins infirmiers à domicile dans mon établissement qui avait été créé. Puis, à ce moment-là, hein, ce genre de poste-là était octroyé par entrevue. Donc, j'avais peu d'ancienneté, mais finalement, j'ai quand même obtenu ce poste-là après environ 1 an et demi. D'être sortie du baccalauréat.
Puis dans le fond, toi, tu es de la région de Mégantic, hein, juste
oui.
pour préciser.
Ouais. Exactement. Oui, fait qu'un petit RLS. Puis j'ai été vraiment chanceuse. Là, on dirait que tout s'est aligné au bon moment. J'ai comme vraiment pu me développer comme infirmière clinicienne là, dans la pratique de la première ligne, là, tant aux soins infirmiers courants qu'aux soins infirmiers à domicile. Ça a été vraiment valorisant pour moi. Là. J'ai développé une autonomie qui était sans précédent. Dans le fond, j'ai pu vraiment, pendant ces premières années-là, développer un grand jugement clinique puis une grande capacité d'adaptation. Ça a été vraiment, vraiment intéressant pour moi. Le plus grand avantage, je trouve, du soin infirmier à domicile, c'est la proximité humaine. On entre complètement dans l'intimité des gens, leur maison, leur histoire, leur dynamique familiale. Ça crée un contexte là, complètement unique. Puis ça nous permet d'intervenir vraiment de façon personnalisée avec les familles, leur entourage. C'est une relation, je trouve, qui ne se vit pas nécessairement de la même façon à domicile qu'en contexte hospitalier.
Tu as tout à fait raison, en effet.
Ouais. C'est vraiment un parcours super inspirant que tu nous racontes. Puis j'ai hâte de savoir tout au long là, de l'épisode du balado, de savoir où tout ça t'a mené aussi là, dans ton expérience de première ligne.
Puis je pense que tu dis que chaque visite était différente aussi, hein, quand on en parlait tantôt.
Absolument. Tout est différent. Il y a une très grande diversité de la pratique au sein même des soins infirmiers à domicile, que ce soit de la surveillance post-op, de la gestion de plaies complexes, de la coordination avec les proches aidants. C'est un milieu qui est extrêmement diversifié. Les visites sont différentes d'une fois à l'autre. Il y a même dans cette diversité-là l'accompagnement des soins en fin de vie, qui est un aspect là, qui est vraiment touchant en soins à domicile. Puis être infirmière dans ce contexte-là, là, c'est d'avoir le privilège d'accompagner les personnes et sa famille dans une des étapes les plus significatives de la vie.
Je me suis toujours demandé, finalement, exactement à quoi ça peut ressembler, les soins à domicile. Tu nous l'expliques bien?
Oui, en effet. Et je crois que pour les soins de fin de vie, justement, on est allé rencontrer Marie-Pierre Masse, qui est infirmière clinicienne en soins à domicile avec vraiment un champ d'intérêt qui est marqué là, pour l'accompagnement des usagers en fin de vie. Donc, écoutons-la nous expliquer ce qu'elle fait au quotidien.
Dans la question, il y a une réponse, c'est sûr, qui est le point central de la prise en charge des usagers et leurs familles en soins palliatifs. Et le point central, bien, c'est justement de les accompagner dans le processus de soins palliatifs, qui peut sembler être vraiment une grosse étape pour l'usager et la famille qui les plonge dans l'inconnu. En tant qu'infirmière à domicile, c'est de les soutenir dans plusieurs sphères, que ce soit dans les étapes du deuil, du cheminement vers une fin de vie où on veut une approche palliative intégrée en partenariat avec toutes les professionnels au dossier ainsi que l'usager et sa famille. Notre rôle va englober la gestion des symptômes, le soulagement des symptômes et de la douleur et de rendre la personne confortable pour lui procurer une qualité de vie et une fin de vie acceptable pour la personne. C'est aussi de s'assurer que les souhaits en fin de vie de la personne sont respectés, de rendre son processus de soins palliatifs à domicile le plus doux possible. Puis je trouve ça vraiment merveilleux de pouvoir donner aux personnes en soins palliatifs tous les suivis, soins qu'on peut donner, tout en étant là à domicile chez la personne comme elle a demandé d'avoir des soins palliatifs à domicile.
Cet extrait démontre vraiment bien l'expertise qui existe en accompagnement de fin de vie dans les soins à domicile. Je trouve ça vraiment inspirant de voir l'impact que l'infirmière peut avoir auprès des usagers et de ses proches.
Puis toi, Marie-Pierre, dans ton développement professionnel, t'as fait quoi par la suite?
Après environ 2 ans là, en soins à domicile, j'ai eu la chance d'obtenir un autre poste. Dans le fond, c'est celui que je convoitais depuis le tout début. C'était d'être infirmière clinicienne en enfance, jeunesse, famille. Ce domaine-là m'avait toujours interpellée là, dès mon premier stage que j'avais fait au niveau collégial. À ce moment-là, on est autour des années 2010, donc avant la réforme Barrette, qui avait amené là, une grande fusion des milieux de soins. Moi, je viens de Mégantic, Julie, comme tu l'as nommé tout à l'heure. Donc, le département d'enfance, jeunesse, famille, c'était peut-être un petit département, oui, c'est ça, où est-ce qu'on faisait de tout, là, vraiment. On partait de la vaccination 0-5 ans, on faisait des suivis holosip pour les familles, là, en contexte un petit peu plus vulnérable. On faisait même des suivis postnataux à domicile, on animait les cours prénataux aussi. Puis en plus de tout ça, on assurait le volet scolaire. Donc, on vaccinait en milieu scolaire, puis on faisait même là, les ateliers préventifs là, dans les classes. Là. On faisait même aussi, en collaboration avec les directions d'école, les plans d'intervention là, pour les enfants qui vivent une maladie chronique ou des allergies qui nécessitent là, la gestion d'un auto-injecteur d'épinéphrine.
Oui, c'est tellement impressionnant, toute la diversité des choses que tu faisais à ce moment-là.
Oui, absolument. Il faut savoir que la réforme Barrette a amené a scindé les rôles un petit peu. C'est pas tous les milieux qui connaissaient cette multi-polyvalence-là de l'infirmière en périnatalité, en enfant, jeunesse, famille. Dans le fond, la fusion a amené certains changements. Donc là, le volet scolaire s'est scindé du volet enfant, jeunesse, famille qui était plus périnatalité. Donc maintenant, les infirmières scolaires œuvrent uniquement en milieu scolaire. Ils ont un rôle là, vraiment essentiel dans les écoles. Puis justement, après que ça a été scindé, je pense que ça a permis justement de focusser puis de mieux structurer puis d'avoir des outils puis des priorités qui s'affinent là, avec le temps.
D'ailleurs, pour notre prochaine visite touristique, on est allé rencontrer Mélanie Doyon, qui est une infirmière justement dans le milieu scolaire au niveau des écoles primaires. Donc, on va aller découvrir un peu à quoi ressemble sa réalité.
Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que les infirmières scolaires de la Direction de la santé publique du CIUS de l'Estrie-Chu sont présentes dans toutes les écoles publiques de l'Estrie. Pour les écoles privées, nous avons des ententes de service, entre autres pour la vaccination puis les cliniques de santé sexuelle. Notre rôle comme infirmière scolaire, c'est vraiment un plan de prévention, de promotion et de protection. Ce qu'on favorise, nous, c'est la santé puis le bien-être des jeunes à l'école. Dans le fond, les infirmières scolaires offrent des services de santé globale pour aider les jeunes dans leur cheminement vers une meilleure santé physique, affective, sexuelle et mentale. Dans le fond, nos 8 standards de pratique. Donc, la première, la promotion de la santé. L'infirmière agit en partenariat puis en collaboration avec l'équipe école pour l'évaluation des besoins puis la planification des actions de santé. Donc, on vise la création, la mise en place de conditions favorables à la santé puis au bien-être des jeunes. Le deuxième, dans le fond, l'éducation à la santé, bien, les infirmières agissent comme personnes ressources. On apporte, dans le fond, notre expertise en santé dans les écoles. On réalise, on participe à la planification d'activités d'éducation à la santé auprès des jeunes en concertation avec les enseignants et les intervenants du milieu. Donc, on peut faire des ateliers en classe, des kiosques sur l'heure du midi, des activités de masse sur des thématiques comme, par exemple, l'alimentation, le lavage des mains avec les maternelles, l'hygiène, le sommeil, le tabac, le vapotage, les ITSS. On a aussi un programme d'éducation à la sexualité. Donc, on fait des ateliers en classe tant au primaire qu'au secondaire. Le troisième standard, c'est le contrôle des maladies infectieuses. Donc, on a vraiment un rôle de consultante, dans le fond, de soutien. en collaboration avec la direction de l'école, les infirmières mettent en œuvre les politiques puis les protocoles qui sont liés à la gestion des maladies infectieuses et parasitaires dans les écoles. Donc, on recommande des stratégies préventives pour prévenir la transmission des maladies. On soutient la direction lors de situations particulières, puis on peut même aussi intervenir auprès des jeunes ou des parents selon les situations. On a aussi le protocole québécois d'immunisation qui prévoit que les enfants reçoivent certains vaccins en milieu scolaire. Donc, les infirmières planifient puis exécutent aussi la vaccination dans les écoles. Le quatrième standard, les services préventifs individuels. Donc, l'infirmière répond aux demandes de consultation santé. Donc, on fait de l'enseignement là, sur différentes situations de santé, par exemple au niveau des relations amoureuses, la consommation, l'image corporelle, les saines habitudes de vie. Donc, plus précisément, ce qu'on fait, c'est qu'on peut dépister et traiter des ITSS. On fait la prescription aussi de contraception hormonale ou la prescription de contraception d'urgence, qui est la pilule du lendemain. Les standards 5 et 6, c'est les problèmes de santé courants ou ponctuels versus les problèmes de santé complexes ou chroniques. Donc, on collabore à l'organisation des premiers soins et des premiers secours. On peut évaluer aussi les besoins particuliers des jeunes. Les infirmières sont responsables de planifier puis de coordonner les soins infirmiers requis. Donc, on détermine, on va assurer aussi la formation des personnes désignées pour donner les soins d'urgence ou pour faire l'administration de certains médicaments. Le standard numéro 7, c'est la documentation des soins de service. Chaque infirmière aussi doit tenir compte du dossier général de santé de l'école. Donc, toutes les écoles ont un dossier de santé qui doit être mis à jour là, à chaque année. Et le dernier, le huitième, c'est la qualité et la sécurité des services. Donc, on doit assurer la qualité des soins et des services. On respecte aussi les droits des jeunes, de leurs parents. Donc, tout ce qui est confidentialité ou protection des jeunes, c'est important. On doit planifier nos services vraiment en tenant compte là, des particularités des écoles. Puis c'est vraiment un travail de collaboration.
Tout comme toi, Marie-Pierre, j'ai fait mon bac là, dans la spécialité de santé communautaire. Puis j'ai eu la chance de faire deux stages en première ligne. Le premier était en santé scolaire, mais dans une école secondaire. Puis j'ai vraiment aimé là, le contact avec les ados pour parler avec eux puis les conseiller dans leurs questionnements en lien avec leur santé puis leur développement. Mais mon deuxième stage était en santé au travail. Donc, on se demande parfois hein, qu'est-ce qui se passe pour une infirmière, qu'est-ce qu'elle fait en santé au travail. Donc, je nous amène faire un arrêt dans notre voyage pour aller visiter les deux infirmières cliniciennes Priscilla Bissonnette et Suda Zing, qui travaillent toutes deux en santé au travail sur le territoire de l'Estrie.
Bien, premièrement, là, comme infirmière en santé au travail, on a un rôle de prévention puis de protection. Fait qu'on a, on fait de l'identification puis de la recommandation au niveau des milieux de travail, donc au niveau des risques à la santé pour les travailleurs. On a un travail qui est interdisciplinaire avec plusieurs professionnels, donc infirmières évidemment, mais médecins, des techniciens en hygiène du travail, hygiénistes du travail, des ergonomes, APPR risques psychosociaux puis des agentes administratives. Puis plus précisément, là, les infirmières, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait de la surveillance médicale, entre autres là, des prélèvements sanguins et urinaires. Ça, c'est en lien avec les risques chimiques qu'on peut avoir sur les milieux de travail. On va faire des rayons X pulmonaires aussi sur les milieux de travail. Fait qu'il y a une roulotte là, qui se déplace directement sur les milieux de travail pour faire des rayons X pulmonaires. On peut faire des questionnaires, des séances d'information pour sensibiliser les travailleurs. Puis aussi, il y a le programme de premier secours, premier soin, qui est les secouristes qui sont présents sur le milieu de travail, les trousses de premier secours. Puis aussi, là, on a le programme de maternité sans danger, puis la maladie à déclaration obligatoire là, qu'on couvre aussi.
Qu'est-ce qui est enrichissant? C'est qu'on peut vraiment contribuer autant à l'évolution qu'à l'ancrage d'une culture préventive en santé dans nos entreprises. Puis ça, bien, ça a un impact vraiment autant chez nos employeurs que chez nos travailleurs. Fait qu'on peut comprendre aussi l'importance de créer des relations de confiance. Puis ce filet de sécurité qui est précieux est vraiment au cœur d'un climat qu'on veut installer au sein de nos entreprises, qui est bienveillant, mais qui vise aussi une certaine efficacité. Il faut se dire qu'il y a un vocabulaire qui est spécifique à la SAT. mais des compétences clés que l'on développe à travers de notre expérience professionnelle, comme notre autonomie professionnelle, notre jugement clinique. Ça demande un savoir d'être empreint d'humanisme et un savoir-faire rigoureux.
Fait que les dépistages auditifs, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup quand même en santé au travail, puis c'est toute l'organisation qui vient avec. Donc, on contacte les milieux de travail, on va demander des listes de travailleurs, on va organiser tout ça avec l'employeur, on va faire les questionnaires, on va faire les dépistages.
Les séances d'info, ils prennent beaucoup de place au cœur de notre travail, là, parce que dans le fond, c'est là qu'on va aller vraiment créer un impact au niveau de la culture organisationnelle, puis sensibiliser autant les travailleurs que les employeurs au risque à la santé. Là.
Des troubles musculo-squelettiques. Fait qu'en fait, c'est les mettons la charge de travail, la posture de travail, la répétitivité, les vibrations. C'est un risque qui était mal géré avant et qu'on essaie de prendre de plus en plus au sérieux. Donc, on sensibilise de plus en plus les employeurs avec ça et les travailleurs. Donc, au même principe, là, c'est des séances d'information. Notre ergonome, en fait, là, dans notre équipe, peut faire des plans d'action et compagnie là, et d'autres choses aussi là, par rapport à ça.
Parce qu'il y a beaucoup de données lésionnelles au niveau de la CNSST là, par rapport au TMS, là, troubles musculo-squelettiques. Fait que c'est pour ça qu'on met plus d'emphase là, sur ce risque-là, mais ça n'enlève pas tous les autres risques. Et un autre risque qui s'est ajouté à la loi, qui nous touche beaucoup, c'est les risques psychosociaux. Parce que là, on touche vraiment la santé mentale. Fait que ça demande à ce qu'on y apporte une réflexion qui est mature pour déployer dans le bon sens. Fait que,
qu'on soit de plus en plus en mesure d'accompagner les employeurs à bien accompagner leurs travailleurs à travers tout ça, puis qui se prennent de plus en plus en main aussi. Là, notre but dans tout ça, c'est d'aider les employeurs à se prendre en main dans leurs risques qui sont présents dans leurs entreprises.
Ouais, puis c'est dosé, parce que, tu sais, veux pas, les risques psychosociaux, c'est tabou encore, puis il y a des comportements qui sont soit normalisés ou minimalisés, fait que c'est, dans le fond, d'élever le langage, d'oser les discussions, mais d'aider à faire comprendre que tout ça, ça peut être fait dans un climat de bienveillance.
Ouais, ben quand on dit que la pratique infirmière, c'est varié, et notre escapade dans l'univers de la première ligne le démontre assez bien. Et toi, Marie-Pierre, tu as pratiqué dans plusieurs secteurs, mais est-ce que tu connaissais la pratique infirmière en santé au travail?
Non, j'ai jamais travaillé en santé au travail, mais je trouve ça vraiment intéressant, hein, parce que ça, c'est vraiment un volet sur la prévention, l'éducation et, dans le fond, tout ce qui est un volet préventif là, qui touche à la première ligne. Puis comme je le dis depuis le début, là, moi, ce qui m'anime, c'est vraiment de contribuer à améliorer la santé des communautés de façon durable. Puis je pense que pour moi, ça fait plein de sens comme rôle infirmier, la santé au travail.
Avec tout ce qu'on découvre jusqu'à maintenant, puis même avant, là, comme je vous nommais mes stages, Marie-Pierre, on avait échangé avant l'enregistrement de l'épisode, je suis vraiment une passionnée de santé publique, puis tout ce qui est première ligne. Puis on va faire une petite escale avec Isabelle Gagnon, qui est l'assistante au supérieur immédiat dans l'équipe des maladies infectieuses de santé publique. On va pouvoir découvrir là, ce qu'ils font, eux, de leur côté.
Moi, je m'appelle Isabelle Gagnon. Je suis l'IC de l'équipe des maladies infectieuses de la santé publique. Fait que nous, en fait, on s'occupe vraiment de la portion protection. Fait que dans mon équipe, on a des infirmières cliniciennes, on a des infirmières en PCI, qui sont des conseillères en prévention des infections. On est un peu comme la police des bébites, comme on peut dire. En fait, nous, on reçoit toutes les maladies à déclaration obligatoire sur notre territoire, qui est l'Estrie. Puis, de ce fait-là, on reçoit aussi des signalements de menaces à la santé, des cliniciens qui peuvent nous signaler des situations qui les préoccupent. Puis là, ça rentre à la santé publique. Puis par la suite, on a des enquêtrices qui enquêtent justement les cas de maladies infectieuses ou des signalements, là, par exemple, dans des milieux. Ce qui fait en sorte que mes infirmières, c'est des enquêtrices, mais aussi, ils ont un rôle un peu plus large que faire une enquête, parce qu'avec la COVID, on l'a vu, là, c'est quoi une enquête de santé publique? Mais nous, en fait, ce qu'on recherche, c'est à protéger la population. Le message de notre santé publique. Puis, quand l'infirmière fait une enquête de santé publique, ce qu'elle doit, dans le fond, essayer de trouver, c'est la source possible d'acquisition de l'infection. Après ça, on essaie de voir autour de la personne qui est malade, est-ce qu'il y a des contacts à qui qu'on pourrait faire des interventions? Par exemple, offrir de la vaccination, offrir de la PPE, qui est comme des antibiotiques là, pour notre clientèle là, qui sont peut-être plus à risque. Fait que c'est vraiment un travail là, d'enquêtrice. On va vraiment large dans notre rôle. C'est un rôle très, très... qui a beaucoup d'autonomie. L'infirmière peut aller vers d'un côté dans son enquête, puis penser, le milieu, est-ce qu'on finalement on enquête le milieu parce que ça me préoccupe. À ce moment-là, il y a des conseillères en prévention des infections qui viennent faire ce travail-là avec nous. Fait que c'est vraiment très, 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 très large, mais très, très stimulant. Fait que, en gros, c'est ça qu'on fait. Dans mon équipe, on a 13 infirmières cliniciennes, on a 6 infirmières PCI en éclosion, puis nos infirmières en éclosion. En fait, de mesure de nos infirmières en prévention des infections, eux autres, ils soutiennent le milieu communautaire. Par exemple, s'ils ont des éclosions dans les CPE, dans nos RPA, tout ce qui est plus privé. Fait qu'on les aide à les soutenir à mettre des mesures en place pour prévenir les infections. Fait que c'est les deux grandes équipes de la santé publique en protection, mais on a aussi d'autres partenaires, évidemment. On travaille avec nos médecins de santé publique, on travaille avec des APPR de santé publique, on travaille avec des agentes aussi, nos agentes qui sont très précieuses parce que c'est elles qui reçoivent tous les laboratoires positifs des maladies à déclaration obligatoire. Fait que c'est très, très vaste comme travail parce qu'on peut enquêter... par exemple, une ITSS à la gonorrhée syphilis, et on peut enquêter un cas de tuberculose qui est beaucoup plus large comme enquête. Fait qu'on s'en va dans toutes les directions, là. Fait que c'est vraiment pour les infirmières qui aiment aller chercher l'information, qui aiment creuser, en fait, là, sur les maladies infectieuses, qui aiment lire, on en apprend tous les jours. Fait que c'est vraiment très, très stimulant comme travail.
Donc, notre voyage au cœur de la pratique infirmière, en première ligne, touche à sa fin. Et Marie-Pierre, je crois que le dernier secteur qu'on va découvrir est relié directement avec ta pratique actuellement comme conseillère en soins. Est-ce que tu veux nous en parler?
Oui, exactement. Moi, ça fait 4 ans que je suis conseillère en soins infirmiers, mais depuis 1 an, là, comme Sophie l'a mentionné au début du balado, je suis responsable des trajectoires des points de service locaux, donc les PSL qu'on entend plus fréquemment. Pour moi, c'est un alignement là, parfait avec mes intérêts de toujours, qui est la première ligne, l'immunisation, la prévention, la promotion des saines habitudes de vie. Les PSL, là, c'est un modèle qui est encore en développement, mais qui a émergé dans un contexte qui était bien particulier, celui de la pandémie.
Juste pour situer les gens, oui. Marie-Pierre, les PSL, dans le fond, c'était, je pense, à l'époque, les fameux CDD, hein, les centres de dépistage.
CDD, pod de vaccination, oui, c'était des termes qu'on entendait, puis que j'entends même encore aujourd'hui.
Je suis la première qui dit « va au CDD, ça va vite ».
Ah, c'est vrai. Exactement. Mais maintenant, c'est les PSL, donc points de service locaux. Donc ça, dans le fond, ça a évolué. Là, on s'est rendu compte, on a rapidement constaté que c'était des milieux de proximité qui fonctionnaient très bien. La population répondait, elle est présente, les accès étaient facilités. Il y avait une expérience de soins qui était vraiment fluide. Fait qu'à partir de cette expérience-là, le ministère qui a constaté là, que ça fonctionnait très bien a décidé qu'il allait faire évoluer ces pods-là en véritables points de service locaux permanents. Donc là, il y a une offre de service qui allait être vraiment faite puis diversifié, puis adapté aux besoins là, de santé publique. Donc là, maintenant, on retrouve vraiment des services comme le dépistage du cancer colorectal, le dépistage du streptocoque du groupe A, la vaccination générale, donc tout ce qui regroupe l'ensemble des activités d'immunisation là, adultes et pédiatriques. Et même dans plusieurs PSL en Estrie, on a intégré dans la dernière année des centres de prélèvement. Donc, tu sais, c'est un beau modèle qui continue de s'enrichir. Il y a encore plusieurs projets qui sont à venir. C'est devenu clair. Dans le fond, les PSL là, répondent à un réel besoin populationnel. Puis comme conseillère, là, j'ai vraiment l'occasion de contribuer, de structurer les services avec toute l'équipe. Mais vraiment, mon rôle, c'est de soutenir les équipes infirmières, de m'assurer que la pratique est cohérente, bien encadrée, surtout axée sur la qualité, hein.
Moi, j'avais une petite question aussi. Est-ce qu'on peut dire que les PSL, quelque part, ça devient comme une façon un peu de dérouter l'entrée qui se fait toujours par les portes des urgences? Ça peut-tu être un moyen d'aider un peu à dérouter?
Absolument, absolument. Surtout quand on parle de dépistage du streptocoque du groupe A, ouais, par exemple, qui est souvent un motif de consultation fréquent à l'urgence chez les enfants ou la clientèle de jeunes adultes. C'est un service qui est facile. On va sur Clic Santé, on prend rendez-vous, puis souvent on a rendez-vous là, dans la journée même, puis l'infirmière a une ordonnance collective qui lui permet de même prescrire l'antibiotique après avoir fait le test de strep directement en PSL.
Je crois que tu as eu la chance justement d'aller rencontrer l'assistante Joannie Amiro, qui va nous parler de ce qu'elle fait justement comme infirmière en PSL.
Le champ de pratique est quand même très, très large. Chose sûre, c'est qu'on est souvent des petites équipes, puis on est choyé d'avoir ces gens-là avec nous. La première ligne, c'est vraiment plus axé sur la promotion, la prévention auprès des usagers. Gros mandat de santé publique avec la vaccination, le dépistage. Puis récemment, on a quand même le mandat aussi de prélèvement. Donc, tous ces services-là font en sorte qu'on a un champ de pratique énorme, axé sur, oui, la continuité, la fluidité des soins dans le système de la santé. On a un mandat énorme de prévention puis de dépistage auprès des gens. L'équipe en première ligne a vraiment une place au cœur du système de la santé. On est le pont qui fait traverser la rivière, je vais dire ça comme ça. On est souvent la main qui tend vers une solution. On est là pour vraiment rassurer, donner, guider. Le beau de tout ça, c'est d'être un rôle conseil pour ces gens-là, de leur dire que la trajectoire peut être simple, de les guider vers le bon chemin, de prendre un 5 minutes de plus puis de les écouter puis de les rassurer là-dedans. Je pense que c'est un mandat énorme qu'on a en première ligne de simplifier le vocabulaire, de faire verbaliser aussi les gens sur leur compréhension. Et faire la différence au cœur de notre communauté, c'est vraiment le rôle premier qu'on a en première ligne. On est quand même une petite communauté. Les gens reviennent et reviennent, donc on a quand même une fluidité de soins. La première ligne a permis à plusieurs personnes de réapprendre à aimer leur profession. Le pourquoi qui était parti étudier en soins infirmiers, de faire une différence au quotidien dans la vie de tous et chacun. Il y a énormément de beau là-dedans. Puis je pense que c'est aussi une grosse partie de l'avenir du réseau de la santé, de mettre au cœur l'autonomie du travail infirmier. Il y a une grosse part de responsabilité qui doit être redonnée à l'infirmière, puis je pense qu'on est la clé du réseau moderne de santé de 2025. Puis je pense qu'il y a énormément de beau à faire encore, à venir. Puis moi, je suis contente d'être là au quotidien puis de contribuer à ce que ma communauté soit meilleure.
Grâce à des infirmières inspirantes, vous serez d'accord avec moi, on a pu découvrir 5 secteurs dans notre escapade dans l'univers de la première ligne. J'espère que, comme nous, vous avez apprécié le voyage. Marie-Pierre Blais, merci vraiment beaucoup de nous avoir partagé ton expérience.
Bien, merci beaucoup à vous deux de m'avoir invité. Ça a été très agréable.
Des accomplissements extraordinaires par des gens dévoués. Voici le coup de cœur de la DSI.
Nous avons 2 coups de cœur de la DSI dans cet épisode qui mettra en lumière l'arrivée estivale de notre relève en soins infirmiers. Nous avons abordé lors d'un précédent épisode les nouvelles modalités de répartition de la relève CEPI, CEPIA et externe en soins infirmiers qui se font désormais sous forme de trajectoire de développement ou trajectoire clientèle. Le taux d'acceptation de la première répartition de 90,5% démontre que ce nouveau mode de fonctionnement permet de bien cibler les préférences de clientèle de la relève tout en répondant à leurs aspirations de développement professionnel. Un sondage auprès de 411 relèves en soins infirmiers a mis en lumière un taux de satisfaction quant au processus de répartition en général de 83%. Le projet Trajectoire de développement professionnel de la DSI est d'ailleurs récipiendaire du prix Excellence 2025 de notre CIUS dans la catégorie Mobilisation de la communauté interne.
Et notre deuxième coup de cœur, la DSI, vient mettre en lumière la collaboration justement entre la DSI et l'équipe du service expérience usagée qui a rendu possible le témoignage d'une proche aidante qui était d'ailleurs une invitée dans un épisode de notre balado, Mme Joanne Chrétien, lors de la journée relève qui était organisée pour toute la relève en soins infirmiers pour la période estivale. Donc, le témoignage de l'expérience de Mme Chrétien comme proche aidante va avoir permis à la relève de réfléchir sur la façon d'adapter notre pratique comme professionnelle en soins infirmiers, parfois par des attentions individualisées, mais en ayant toujours en tête que l'usager est avant tout un être, donc à part entière. Donc, une belle prise de conscience qui auront essentiellement un impact sur la pratique infirmière en mettant de toute l'avant là, l'importance du agir pour, mais surtout avec l'usager et sa famille.
Soins sécuritaires, déontologie, L3S, acte réservé. Ai-je le droit?
Ai-je le droit comme infirmière d'initier le dépistage des infections transmissibles sexuellement et par le sang sans ordonnance? La réponse est oui, puisque cette activité s'inscrit directement dans les activités réservées des infirmiers et infirmières à l'article 36 de la Loi sur les infirmières et infirmiers, soit l'activité réservée numéro 4, qui est d'initier des mesures diagnostiques à des fins de dépistage dans le cadre d'une activité découlant de l'application de la Loi sur la santé publique. La prévention des ITSS fait partie des priorités du Programme national de santé publique. Toutefois, la professionnelle se doit de procéder en conformité avec les modalités prévues dans le Guide québécois de dépistage des ITSS du ministère, par exemple que l'usager soit asymptomatique et doit bien sûr respecter ses obligations déontologiques. Ainsi, elle doit notamment s'assurer de pouvoir recevoir et interpréter les résultats des tests de dépistage demandés, puis assurer le suivi de la clientèle. Advenant qu'elle atteint les limites de son champ d'exercice, par exemple face à un usager symptomatique, elle doit pouvoir établir un partenariat afin qu'une autre professionnelle habilitée, soit un médecin ou une IPS, puisse assurer la prise en charge en établissant les communications appropriées. Dans le cas d'un résultat positif à la chlamydia ou à la gonorrhée, l'infirmière qui détient une attestation de prescription peut prescrire le traitement approprié à la personne asymptomatique en conformité avec la règle de soins infirmiers sur la prescription infirmière.
Équité, diversité, inclusion. La Minute EDI avec Franck Boulaslage.
Capacitisme. Le capacitisme est un terme désignant les discriminations et les préjugés envers les personnes en situation de handicap. Il se manifeste par des comportements, des attitudes et des politiques qui favorisent les personnes perçues comme valides, tout en marginalisant ou en dévalorisant celles avec un handicap. Cela peut se traduire par des barrières à l'accès aux infrastructures, à l'emploi, à l'éducation, ou même par des stéréotypes qui limitent la perception des capacités des personnes handicapées. Un exemple courant serait un employeur qui refuse d'embaucher une personne en fauteuil roulant, sous prétexte qu'elle ne pourrait pas accomplir certaines tâches physiques sans même envisager des aménagements possibles. Cela présuppose que la personne est moins compétente simplement à cause de son handicap, ce qui reflète une attitude capacitiste. Pour combattre le capacitisme, il est essentiel de promouvoir l'inclusion et de repenser l'accessibilité, de déconstruire les idées préconçues sur ce que signifie être capable. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter la section Équité, diversité et inclusion dans l'intranet du CIUS de l'Estrichus. Merci.
Quel beau voyage au cœur de la pratique infirmière! Nous aimerions remercier notre invitée d'aujourd'hui, Marie-Pierre Blais, ainsi que Marie-Pierre Masse, Mélanie Doyon, Priscilla Bissonnette et Sida Zing, Isabelle Gagnon et Joanie Amiro, qui nous ont permis de découvrir ce qu'elles font au quotidien comme infirmières en première ligne.
Donc, pour clore le sujet d'aujourd'hui, on vous invite à demeurer à l'écoute du prochain épisode où il sera question de la santé mentale avec notre experte qui est aussi une artiste dans l'âme. Vous aurez la chance de la découvrir. Il s'agit de Mme Andréanne Choquette. Alors, c'est ce qui conclut ce balado de la Direction des soins infirmiers Savoir et Stéthoscope.
À la prochaine!
Le balado de la Direction des soins infirmiers du CIUS de l'Estrichu, Savoir et Stéthoscope, est produit et réalisé entièrement par l'équipe de la DSI. Ce balado a été enregistré et monté dans les studios de CEFAC 88.3 à l'Université de Sherbrooke. Merci à eux. À la prochaine pour plus de Savoir et Stéthoscope.